Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Les prochaines minutes vont nous faire du bien parce que quand on parle d'actualité, c'est pas toujours Jojo, évidemment. Mais notre invité ce matin nous propose un livre sur le rire, sur l'humour et aussi sur un peu qui nous sommes. Au Québec, Boucard Diff est avec nous. Bonjour, Boucard.
Hey, bonjour, Paul. Merci pour l'invitation.
Ce que la vie doit au rire.
Oui.
En lisant le bouquin, d'abord, je trouve que ça arrive tellement bien là quand on a un peu de morosité, puis des conflits, puis des tensions. Puis je te lis dans la presse, puis tu nous ramènes finalement à la nature en dédramatisant bien des choses. Le rire est fondamental.
Ah oui, mais je pense qu'on est à la place pour le dire parce que moi je pense que la chimie de votre équipe ici, c'est une chimie humoristique extraordinaire. C'est quand on vous écoute, on vous écoute de l'autre côté. Il m'arrive de dire j'aimerais être là, parce que c'est un mode de communication qui est tellement fluide dans votre équipe. Il y a quelqu'un qui disait le rire, c'est comme les essuie-glaces, ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet de continuer d'avancer. C'est un mode de communication chez nous qui fait du bien.
Mais est-ce que le rire a toujours été présent dans ta vie? Parce qu'on t'imagine étudiant, scientifique, esprit rigoureux. Est-ce que tu as fait ça en parallèle ou un jour le rire est arrivé ou le besoin d'être en humour?
Mais moi, le rire était chez moi avant la science, beaucoup plus. Parce que moi, je pense que le besoin de faire rire les autres, de communiquer par le rire, quand on le fait beaucoup, c'est juste parce que on veut dévier l'attention des gens sur nous. Pour moi, le rire, c'est un mode de communication aussi. Les gens qui communiquent par le rire, qui font de l'humour, quelque chose de... C'est des gens aussi qui se soignent de quelque chose. Il y en a beaucoup, c'est ça. Là. Moi, ça a été parce que je suis venu au monde avec une jambe... Pas gêné au monde, à l'âge de 4-5 ans, j'ai attrapé la poliomyélite. Puis j'ai une de mes jambes scrape, pour parler québécois. J'aime beaucoup ce mot-là.
Je sais que tu aimes beaucoup parler québécois.
Oui, endommagé, ça fait pas la chose. Scrape, quand le Québécois
c'est
dit
clair, ça.
Non, tu le visualises. Quand ton char est scrape, tu peux rien faire avec. Ma jambe scrape, puis ça a été un gros complexe dans ma vie. Adolescence, ça a été tough pour moi, à l'école primaire, avec les gens qui rient de ça, les enfants. Ça a été quelque chose de très tough. Donc, moi, l'humour, ça a été une façon de dévier l'attention. Je dis souvent à mes enfants, c'est le magicien qui va te faire un tour, là. Il agite un mouchoir ici pour que tu regardes là, puis là, il fait son tour de l'autre côté. Ben, ça a été ça, l'humour, pour moi. C'est pour dévier l'attention des gens ailleurs que sur ma démarche qui me gênait. Et donc, ce mode de communication était là bien avant la science et j'ai mélangé les deux par la suite. C'est ça que je fais maintenant.
Quel est ton genre d'humour préféré?
Moi, j'aime tout. Moi, j'aime tout. J'aime tout et ce que je trouve fantastique au Québec, c'est que c'est la capitale mondiale de l'humour, le Québec. Tous les genres d'humour sont représentés ici. Tout ce que tu cherches existe. Je dis souvent, le Québec, c'est le seul endroit où t'entends les gens dire ça sent drôle, tu sais. Parce que vraiment, moi, comme biologiste, je me dis que ça sentir drôle ou ça goûte drôle. T'entends les Québécois dire ça goûte drôle. Tu dis, OK, à moins de manger un clown, je sais pas ce que c'est pour goûter drôle, tu sais. Mais non, j'ai aimé l'univers humoristique. C'est sûr que moi, étant du passé... Les textes d'Yvon Deschamps, les Daniel Lemire, Pierre Légaré, ça, c'est des gens qui m'ont touché beaucoup, beaucoup. François Léveillé, que j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup d'autres. Et parmi les jeunes aussi, il y en a beaucoup. Hein. Les Martin Matt, tout ça, c'est des grands humoristes, je trouve. T'sais.
Ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est évidemment, tu parles de l'humour, mais tu nous ramènes à la nature.
Oui.
Et je te le disais avant la pause... Je me suis posé toujours une question comme enfant, puis c'est le genre de question que tu oublies. Puis en lisant le livre, je disais, il faudrait que je lui pose la question, est-ce qu'un animal peux rire. Moi, j'ai un chien, puis depuis que j'ai lu ton livre, je le regarde, puis je me demande s'il rit.
Oui.
C'est quoi la réponse?
Ils miment nos rires, les chiens. Le chien mime le rire humain. C'est le chien, il met toutes nos émotions. C'est, je veux dire, même quand il est pâteau, quand il a fait un coup, tu le vois bien qu'il te dit, oh boy, qu'est-ce que j'ai fait, tu sais? Parce que le chien, c'est particulier, il a été humanisé par l'espèce humaine. On l'a adopté, c'est un loup au début. C'est les loups qui sont venus chez nous. Mais ils sont venus il y a 30 000 ans au moins. C'est 30 000 ans, ça veut dire que le chien est chez l'humain 20 000 ans avant les autres animaux domestiques. Parce que le néolithique est 10 000 ans à peu près. Quand on a commencé à domestiquer les animaux, le chien était déjà à côté des humains 20 000 ans avant. Et donc, il a humanisé le chien. Il a développé au niveau de la face deux muscles qui lui permettent de mimer nos émotions pour communiquer avec nous. Parce que Pierre Jouventin, qui est un biologiste français, il dit le chimpanzé est génétiquement proche de nous. C'est vrai, très proche. Mais écologiquement, éthologiquement et psychologiquement, le chien est l'animal le plus proche de l'espèce humaine. Parce qu'il vient d'une société qui ressemble à la nôtre. Les loups ont un chef, une chef. Ils sont habitués à écouter les ordres, à vivre en société, à travailler en équipe pour chasser, ce qui est l'espèce humaine. Et donc, quand lui est arrivé, le chien, chez nous, ben, il a regardé l'humain, puis il a dit, tu fais partie de ma meute. Puis ça fonctionne. Et donc, il mime, il essaie de décoder ce qu'on fait. Et donc, le sourire, pour revenir au rire, tu sais, le chien, il fait des sourires parce qu'il nous voit rire. Et avec le temps, il a développé cette faculté de sourire, de se dire, oh boy. Il a été même démontré que le chien, aujourd'hui, juste le fait de le caresser quand t'aimes ton chien ou de le regarder, fait sécréter à l'humain de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement que les mamans sécrètent pour l'attachement des bébés à la maman, tu sais. Et donc, ça veut dire que c'est quelqu'un de notre famille. Il a appris à digérer l'amidon, tu sais. Les sucres, le loup, il mange pas ça. Il nous regarde dans les yeux. Le loup ne regarde pas. Le loup, c'est un prédateur supérieur. Il dit, je vous emmerde. Mais le chien, c'est vraiment un humain. Puis c'est vrai qu'il sourit.
Qu'est-ce que tu penses de l'impact du rire, du sourire même, parce qu'il y a le rire, mais il y a le sourire aussi, qui tu le soulignes dans le livre, sur la santé.
Ah.
Moi, je veux t'entendre là-dessus, là, parce que j'ai toujours eu beaucoup de commentaires de gens qui disent, oh, attends, faut pas exagérer l'impact du rire ou je pense que ça, c'est un effet réel.
Ben, absolument. Faut inviter les gens qui font le yoga du rire à Montréal. Il y a des équipes de yoga du rire, la thérapie par le rire. Mais on n'a pas besoin d'être un scientifique pour savoir qu'un bon rire senti, ça touche tous les organes du corps, ça mobilise les muscles, le sternum, ça améliore les échanges gazeux au niveau des alvéoles, au niveau de la tête, ça évacue les tensions psychologiques. Ça nous fait sécréter de l'endorphine, c'est une thérapie, le rire. C'est si la nature l'a gardé si longtemps, parce que c'est pas le propre de l'humain. C'est Aristote disait ça, le rire est le propre de l'humain. Rabelais l'a dit aussi, mais le rire a au moins 30 millions dans l'évolution. Ça veut dire que même les rats, quand on les chatouille, ils rient. Les rats rient, ça se dit mal, là, mais mais les chimpanzés rient. Franz De Waal, il raconte dans ses livres que même les bonobos, les chimpanzés font des blagues. Ils font des blagues, ils jouent des coups, puis tu les vois rire. Ils rient pas de la même façon que nous, mais c'est pour moi, c'est un cadeau de l'évolution, le rire. Ça fait du bien. C'est pas pour rien que les salles de spectacle sont remplies de gens qui viennent évacuer leur tension, l'espace d'un spectacle.
Tu fais un spectacle, tu en as fait un hier soir, tu nous mets un miroir dans le visage.
Absolument.
Là. Mais moi, je trouve ça fabuleux. Mais est-ce qu'il y a encore des choses après toutes ces années, j'allais dire, qui t'étonnent ou qui... je n'avais jamais entendu celle-là. Est-ce que tu fais encore des découvertes sur nous?
Ah oui, mais beaucoup. Mais de moins en moins, parce que ça fait longtemps que je vous étudie, Paul.
Très bien.
Ça fait longtemps, 33 ans d'études. Là. Uh-huh. Sur un sujet, là, tu finis par le maîtriser. Puis moi, la maîtrise vient du rire. Parce que le rire, Paul, c'est un outil de séduction extraordinaire. Et je parle pas seulement de séduire l'autre sexe, parce que c'est démontré que c'est efficace aussi là. Mais quand tu arrives dans une nouvelle culture, tu connais pas les gens... Tu connais pas les façons de faire.
Les codes.
Et tu réussis à rire avec les gens. Pour moi, ça, c'est la frontière ultime. Quelqu'un me disait ça, une enseignante qui utilise le rire. Puis, c'est vraiment la frontière ultime dans l'intégration. C'est quand t'es capable de rire au même endroit, avec la même tonalité que les autres, qui sont pas de la même culture que toi, c'est que tu portes une partie de leur identité collective. Moi, ça m'a pris peut-être une dizaine d'années pour voir que les Québécois remplissent mes salles. Dizaine d'années de spectacle. Puis voir les Québécois venir et remplir des grandes salles. Je joue au Grand Théâtre de Québec, 1800 personnes, c'est rempli. Parce que les gens, quand ils y arrivent, on est dans les mêmes références. Je leur parle de moi, je leur parle de l'Afrique, mais je leur parle d'eux. Et je leur tends un miroir et ils capotent. Parce que je leur dis...
Est-ce qu'il y en a qui sont fâchés des fois? Ou...
Oui, ça arrive des fois, mais c'est très rare quand même. Parce que je le fais en douceur.
C'est pas méchant, c'est un beau clin d'œil.
Ben oui, mais ça, c'est moi, mon dernier spectacle que j'ai fait, Mac Togouek, je suis venu ici parler de ça avec toi, qui portait sur le Saint-Laurent, où je revisitais le voyage de Jacques Cartier. Il y a des gens qui m'ont écrit pour dire, Boucar, mais pourquoi toi tu fais ça, là? C'est de l'appropriation culturelle. Puis j'ai dit, non, arrêtez, là.
Non.
C'est de l'histoire. Mais oui, ça les surprend, mais moi, ça a été un outil extraordinaire pour moi, le rire, faire rire les gens.
Est-ce que c'est vrai que tu imites un oiseau?
Un oiseau?
Oui, que tu fais un bruit d'oiseau.
Ah, je fais des fois des... Mais ça, c'est beaucoup... C'est des choses qu'on faisait pour appeler les veaux, c'est les vaches. Ah. Puis des fois, j'exagère ça un peu sur scène, mais...
On m'a raconté que sur scène, c'était quelque chose à voir.
Non, je racontais sur scène que quand je suis arrivé à Rimouski, ben, avec mon ami Mamadou, il y a longtemps, en 1991, puis à un moment donné, on allait voir à quoi ressemble l'université, puis c'était à la Brunante, puis on parlait dans notre langue nationale, le Wolof, puis nous, quand on parle, on fait des sons, c'est... Puis je dis, ben nous on dit, hey Mamadou, c'est parce qu'on fait des sons. Puis je dis, puis il y a une indigène de Rimouski qui se promenait devant nous à la Brunante. Puis à un moment donné, elle se retourne puis se met à accélérer le pas. C'est. Puis là, je dis à Mamadou, hey, écoute, mais si cette femme accélère le pas ici, c'est parce qu'elle a vu quelque chose que nous autres, les étrangers, on n'a pas vu. Ça fait que nous, on reste pas ici, on accélère le pas aussi. Puis là, je dis, on a accéléré le pas, puis elle s'est mise à courir. Puis moi, mon grand-père m'avait dit, si tu as peur dans une nouvelle culture, au lieu de juste courir, fais du bruit pour éloigner ce qui te fait peur. Puis là, je dis, on courait derrière l'indigène, mais en faisant...
C'est assez pour terroriser n'importe qui.
Ouais, mais c'est ça. C'est probablement ça qu'ils ont entendu. C'est un bout d'un spectacle que je faisais dans les années passées.
C'est incroyable. Boucar, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Ben, c'est toujours un plaisir. T'es encore en spectacle. Ça tourne?
Ouais, mon spectacle est à l'affiche un peu partout au Québec, si ça vous tente. Ça s'appelle Nomo Sapiens.
Et aux éditions L'Après, Ce que la vie doit au rire, ça fait du bien de lire ça.
Ben, merci beaucoup, Paul.
Boucar Diouf était notre invité. On fait une pause?
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Notre invité nous propose quitte une forme de biographie ce matin, un retour sur sa vie, sur sa carrière. Rita Baga, qu'on connaît comme une star, mais ce matin devant moi, c'est Jean-François Guévremont. Bonjour.
Bonjour.
C'est une bio que vous avez commencé à écrire il y a longtemps et c'est comme un work in progress, là. Pourquoi vous avez pris cette démarche-là de commencer à écrire puis de dire j'en ajoute un peu chaque année?
Pour être honnête, ça a commencé dans une formule plus académique, plus encyclopédique. Je trouvais qu'on se faisait souvent poser les mêmes questions, les gens qui pratiquent ce discret métier. Et je me suis dit, est-ce qu'il existe? Je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'il existe quelque chose qui est fait par écrit, par une drague, pourrait répondre à l'ensemble de ces questions-là. Donc, j'avais commencé en deux conférences, en deux voyages, à écrire, à coucher sur papier, vraiment un cours 101 de la drague. Et après ça, on m'a approché pour ajouter plus un aspect biographique. Je me trouvais trop jeune pour me prêter à l'exercice. Donc finalement, le livre, c'est un 2-pour-1 sur un abécédaire de la drague et aussi sur ma vie.
Plongeons dans l'univers de la drague. D'abord, il y a autant de définitions, j'allais dire, que presque de personnes, là, dans le sens où c'est un univers qu'on connaît pas, ou qu'on connaît parfois par le burlesque un peu, le côté très variété. Mais c'est plus complexe que ça.
C'est très complexe et la notion est obsolète. Souvent, on pense que c'est un homme gay qui s'habille en femme, alors que ce n'est plus ça du tout. Ça a longtemps été ça dans l'image, disons, ce qu'on entendait au sens collectif, mais maintenant, peu importe ce que tu as dans les culottes ou dans la tête, tu peux faire le genre de drague que tu veux.
À l'époque, moi, j'ai connu Jean Gilda. qui était une forme d'icône également, qui avait fait des spectacles absolument extraordinaires. Vous en parlez un peu dans le livre. C'est quoi? C'est comme une référence lointaine pour vous?
C'est une inspiration qu'il donne, une pionnière. On pense souvent à Mado Lamotte, qui est ma grand-mère de cœur. Mais Gilda, en fait, elle a vraiment ouvert des portes. Et pour moi, c'est l'image de la perfection d'une, si on peut catégoriser, une transformiste.
OK. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce monde-là?
C'était l'anniversaire d'un ami et j'avais un ami qui pratiquait ce métier-là. Moi, ça m'intéressait pas du tout. J'étais aux études, je me disais, non, ça c'est un endroit de perdition. Je veux pas aller là, je veux continuer mes études. Et finalement, je me suis fait prendre au jeu à aimer ça, tout ce qui est clinquant, paillettes. Et pour l'anniversaire d'une drague, j'ai décidé de lui faire une surprise et c'est là que j'ai réalisé. C'est tout ce que j'aime dans la vie, finalement. Être sur une scène, avoir un personnage, des costumes flamboyants. Et j'ai eu la piqûre instantanément.
Mais c'est un univers de boîte de nuit, de spectacle, vous le dites dans le livre, d'alcool aussi. Il y en a qui deviennent dépendants, il y en a qui malheureusement en chutent. C'est un milieu dur quand même.
C'est très difficile et longtemps, si on se compare un peu avec les autres systèmes drague à travers le monde, longtemps les dragues, particulièrement où j'ai évolué au Cabaret Mado, on recevait du pourboire en alcool aussi. Donc c'est plus fréquent à Toronto de recevoir un 5$ après une performance, c'est vraiment un pourboire. Mais le pourboire était de l'alcool pendant longtemps, c'était encouragé. Il y avait des jeux du genre on saoule l'animatrice de la soirée. Donc c'est certain que à l'heure actuelle, mon foie est assez, je dirais, brûlé. Mais on fait des choix et je crois que la nouvelle génération, maintenant, le vit de façon plus saine. Et c'est moins encouragé la consommation au niveau des dragues. Mais pendant longtemps, ça fut un peu un abîme, là.
Mais en même temps, c'est un milieu qui était au départ assez fermé. C'est-à-dire que c'était dans les clubs, c'était bon dans le village à Montréal, ailleurs aussi, mais... est arrivée l'explosion par des concours, par la télévision. Ça a été ça qui a été très marquant.
Ce qui a rendu notre art plus grand public, ou disons sous la loupe, c'est vraiment l'avènement de compétitions comme RuPaul's Drag Race, qui a eu deux effets. Ça a encouragé les gens à vouloir en voir en vrai, assister à des spectacles. Et pour les gens qui produisaient les spectacles, donc les artistes, c'est devenu un peu un standard, là. On voulait avoir l'air aussi professionnel que ce qu'on voyait à la télé. Donc, ça a vraiment reconfiguré notre façon de voir notre métier, mais aussi d'y assister parce que maintenant, c'est sûr, on change de paradigme avec les années. Ce n'est plus la même expérience être sur une scène qu'avant. Avant, les gens sortaient pour voir le spectacle. Mmh. Maintenant, ils voient le spectacle derrière leur téléphone cellulaire aussi. Les réseaux sociaux, la drague occupe beaucoup d'espace sur les différentes plateformes. Et je pense que cet intérêt-là, il grandit, il croît d'année en année. Oui, il y a les compétitions, mais on voit des dragues partout, partout sur
non,
la planète.
Non, mais vous avez roulé à la télé, vous avez fait des émissions quand même, je vais dire, pas spécialisées. Là. Vous êtes allé dans des concours, vous avez fait de la télé-réalité. Vous êtes devenu une star assez rapidement.
Dans mon cas, ce qui a aidé à me faire connaître du grand public, ça a été d'une part faire Canada's Drag Race. C'était la première édition au Canada. Et ensuite, il y a eu Big Brother Célébrité. Je dirais qu'au Québec, les gens me connaissent davantage pour ma participation à Big Brother Célébrité qu'à Canada's Drag Race. Il fallait quand même être fan pour suivre la franchise Drag Race, donc déjà avoir des notions ou une certaine curiosité pour notre métier. Tandis qu'à Big Brother, on sélectionnait des gens qui rayonnaient dans leur univers respectif. Donc, je crois que c'est à ce moment-là qu'on a eu un petit peu plus d'emphase sur qui je suis et aussi le métier que je pratique. Mais maintenant, on en voit de tout acabit, de toutes sortes de drague sur la place publique. Je suis sûr qu'une question s'en vient probablement bientôt.
Pour les écoles?
Est-ce qu'on en voit trop? Est-ce que les dragues devraient rester dans les cabarets? Ben, je crois qu'on peut anticiper que ma réponse est non, on n'en voit pas trop. Je comprends qu'il y a une polémique, des polémiques sur la place qu'on occupe, mais...
Par exemple, la présence à l'école, qu'est-ce que vous en pensez? Ça polarise jusqu'à un certain point, là, mais en fait, ça soulève des critiques. C'est une bonne affaire ou pas? Et pourquoi?
Je comprends que ça peut soulever des critiques, déclencher une polémique. Je veux juste faire une petite correction. On parle de drague dans les écoles alors que c'est dans des bibliothèques. Ouais. Ce qui est quand même une nuance importante parce que depuis les récents événements...
C'est un choix là, que les parents font.
C'est un choix. On n'impose pas notre présence dans les écoles primaires. Je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de dragues qui font l'heure du compte et c'est par inscription. Faut être volontaire pour y aller et ça se passe dans des bibliothèques. C'est un événement pédagogique et encadré. Donc, je crois qu'il y a eu un faux débat, malheureusement. Et comme ça arrive souvent avec les communautés marginalisées, bien, les dragues ont été un peu le bouc émissaire de toutes sortes de choses qui se passent dans le monde. Ah, le prix de l'essence a augmenté, c'est de la faute des drag queens. C'est rendu un peu de ridicule, à mon avis. Mais je comprends que pour des parents, l'image de plus clownesque d'une drague peut être offensant, mais c'est un choix. Est-ce que vous voulez que votre enfant participe à cette activité? Oui, allez-y. Non, n'y allez pas, c'est tout. Pour moi, le discours se termine maintenant.
Vous en parlez un peu dans votre livre. Puis on le sait aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un réservoir de haine qui peut faire mal. Parce que, surtout quand on devient plus connu par la télé, vous l'avez senti, là, que j'ouvre l'ordinateur, puis je vois les commentaires, puis il y a des trucs dégueulasses qui vous sont envoyés, là.
Depuis la première fois, je crois que ça fait 5 ans que je faisais une apparition à Bonsoir, Bonsoir. Depuis la première fois qu'on m'a vu dans une émission au grand public, j'ai commencé à recevoir quotidiennement des messages et ce n'est pas que des commentaires en dessous d'une publication. On essaie de m'écrire en privé pour être certain que je puisse lire ces 10 messages-là. Et je me suis fait une certaine carapace. Il y a eu une recrudescence dans les dernières années, une remontée de la haine et ça nous atteint. Je pense que les gens peuvent parfois oublier que même si on a des apparats de personnages, il y a un humain derrière qui incarne ce personnage-là. Et je suis déjà une personne anxieuse dans la vie, donc c'est sûr que mon niveau d'anxiété a pas mal plafonné dans les 2 dernières années.
Est-ce que c'est un milieu compétitif? Puis moi, j'ai la référence d'une autre époque qui est celle décrite par Michel Tremblay, où ça pouvait jouer dur, là. Est-ce que c'est encore le cas quand vous avez commencé? Est-ce que c'était le cas? Puis est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui?
Quand j'ai commencé, il y avait beaucoup moins de dragues. Je pouvais pratiquement nommer toutes les dragues qui travaillaient régulièrement dans les bars et cabarets de Montréal. Maintenant, avec l'avènement de différentes téléréalités, différentes plateformes, il en pleut des dragues de tout acabit, tout type de dragues aussi. Et je pense que j'ai toujours eu une belle naïveté en me disant non, tout le monde s'aime, c'est beau, mais ça peut jouer dur effectivement dans les loges parce que ce ne sont pas des places illimitées. Il faut prendre sa place. Et comme dans toute chose, il faut trouver un juste milieu entre se démarquer et prendre notre place.
Vous parlez dans le livre d'une notion qui est la notion de famille, qui peut étonner, là, mais tu sais, des fois, on a un modèle, un mentor, mais c'est plus large que ça, parce que vous parlez de famille, voire même d'adoption.
Le système de famille au niveau des dragues, c'est relié à la famille choisie. Donc, c'est de sélectionner une autre famille qui peut remplacer ou être complémentaire à celle de sang. Et dans ce système-là, il y a une mère ou un père, là, c'est une approche assez binaire de façon générale, qui va mentorer, aider ses enfants, entre guillemets, et les aider à s'épanouir dans ce milieu-là. Il y a différents types, j'ai envie de dire, d'éducation dans un système de famille. Moi, je suis très près de mes enfants drag. J'en ai 6 au total, des enfants et des artistes de la danse aussi. Et notre relation dépasse la drag de façon générale. On se voit souvent, on s'écrit souvent. Je les accompagne dans des moments importants de leur vie. Et je crois qu'on a besoin de ça pour la plupart des gens issus de différentes communautés, de la diversité sexuelle et de genre, d'avoir un appui solide sur lequel on peut compter dans des situations plus difficiles ou marginales.
Qu'est-ce que vous pensez de tout le débat sur les toilettes mixtes dans les écoles ou comment interpeller son professeur? Le débat là, très, très actuel.
Pour ce qui est du débat, entre guillemets, pour moi, ça n'en est pas un vraiment parce que ajouter une toilette mixte, ce n'est pas nécessairement retirer une toilette genrée. Alors, pour moi, je suis pour l'inclusion et l'ajout de ressources qui peuvent aider toute personne qui en ont besoin. Donc, pour moi, s'il y a 2 toilettes dans une école qui sont genrées et on en ajoute une troisième, une toilette mixte...
Mais de mettre l'ensemble des toilettes mixtes?
Je comprends que c'est... C'est à différents niveaux. Je vous écoutais mm-hmm. un petit peu plus tôt, vous en parliez par rapport aux écoles primaires ouais. et à l'école secondaire. Et on revient un peu aussi à tout ce qui est question d'identité de genre et d'orientation, à partir de quel âge on peut en parler. Mais il reste que même si le pourcentage de la population que ça affecte directement, qui en ont besoin, est faible, si le besoin est là, je crois qu'on doit tendre l'oreille et discuter. Et la meilleure façon, c'est d'avoir une conversation avec les personnes concernées.
Vous avez dépensé combien en paillettes, en perruques, en maquillage, en vêtements? J'ai vu, là, pour, je pense, un spectacle, ça allait jusqu'à 55 000, je pense. Mais ça coûte une fortune.
Ça coûte une fortune et ça demeure un choix. Juste spécifier, le 55 000, c'est pour une compétition.
Oui, mais quand même.
Mais c'est beaucoup d'argent. Maintenant, les gens qui participent à des franchises Drag Race partout à travers le monde, ça peut aller jusqu'à 200 000 qu'ils dépensent parce que plus on a des beaux ensembles, plus on a de chances de se rendre loin dans la compétition parce qu'on est beaucoup, on est très jugé sur ce que l'on porte. Mais ça demeure un choix. Faut toujours penser, si je suis invité à une émission, par exemple, avec Serge Denoncourt, ben Serge Denoncourt cours, n'aura pas une robe faite sur mesure. Il peut s'il veut, là. Ce serait d'ailleurs très drôle de le voir comme ça, mais il n'y aurait pas une robe sur mesure à 1500 avec une perruque à 8 $. Ça monte vite. Donc, c'est un choix. Faut agir de façon stratégique avec son portefeuille.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
C'est avec grand plaisir que nous accueillons ce matin Félix Auger-Aliassime, qui devient, on le sait, le porte-parole de la campagne de financement, voire grand, de la fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Félix, bonjour.
Bonjour, comment ça va?
Bien, toi?
Ça va, tout va bien, merci.
Dis-moi, pourquoi tu t'impliques particulièrement avec Sainte-Justine?
Ben, on commence, c'est ça, c'est un des plus... Un des plus grands hôpitaux en pédiatrie au Québec. Donc, j'ai eu la chance moi-même de visiter l'hôpital hier. Puis c'est magnifique de voir tout ce qu'ils font là-bas sur place. Puis quand j'ai reçu l'appel pour être éventuellement porte-parole, j'ai pas hésité longtemps. Je suis moi-même né à Sainte-Justine, donc je trouvais que ça amenait c'est une proximité qui était intéressante. Puis de vouloir ça m'impliquer dans une cause aussi importante, d'être la voix de tous les gens là-bas, et d'essayer d'être le meilleur porte-parole possible et d'utiliser les moyens, la plateforme que j'ai pour encourager tout le monde à se mobiliser, puis essayer de... Puisque, comme on m'a répété beaucoup là-bas, les médecins, ils disent à quel point la philanthropie, ça fait vraiment une grande différence. Donc, on va essayer de faire une très belle campagne.
Quelle forme va prendre ton implication, Félix? Parce que je t'écoutais en entrevue hier, tu disais que tu passes pas beaucoup de temps au Québec, 2 à 3 semaines par année. Comment t'entends t'impliquer?
Ouais. Oui, mais c'est sûr que aujourd'hui, par la forme des réseaux sociaux, par la forme d'entrevues, c'est sûr qu'il y a beaucoup de communication qui va être faite à ce niveau-là. Mais quand je peux, quand je suis de passage à Montréal, à chaque année, je vais essayer de faire une visite, essayer de rencontrer les patients, les médecins et tous les gens qui sont impliqués sur place. Mais je pense qu'il y a beaucoup de communication qui va être faite via les réseaux sociaux et autres médias.
Évidemment, on peut pas avoir Félix Auger-Aliassime en entrevue sans parler de ta saison. Oui. Je sais que tu as été blessé, notamment une blessure à un genou. Est-ce qu'on peut penser à une guérison complète de ton genou ou c'est quelque chose qui va t'ennuyer durant toute ta carrière?
Non, je dirais pas toute. Ben, j'espère pas toute ma carrière. J'ai quand même seulement que 23 ans, donc. C'est ça, je vais essayer de prendre le temps qu'il faut pour bien me guérir, pour que justement je puisse avoir de nombreuses années à jouer en santé devant moi. C'est sûr que ça a été une année très compliquée, probablement la plus compliquée que j'ai vécue jusqu'à présent dans ma jeune carrière. Mais ça fait partie, je pense, de la carrière d'un joueur de tennis, d'un sportif, de vivre des moments difficiles comme ça. Mais j'aime toujours aussi une histoire de remontée puis une histoire de comeback, comme on dit.
Ouais.
Donc, je vais essayer de faire tout ce qu'il faut puis essayer de mon meilleur possible pour revenir au niveau où j'étais il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est sûr que ça commence par la santé.
C'est clairement, à chaque fois que je parle à un athlète qui évolue dans une discipline seule, qui n'est pas une discipline d'équipe, j'imagine la pression qui s'exerce, par exemple, dans un match de tennis. Quand ça va pas, ça va pas. On t'a vu à Montréal, c'est l'an passé. Bon.
Ouais.
Comment t'arrives à surmonter ça? T'as une préparation mentale, t'as des trucs, parce que ça peut devenir quand même lourd.
Oui, ça peut devenir difficile par moment. Je pense que j'ai quelques trucs, mais c'est des trucs qui varient. Je pense que pour moi, des fois, une vérité à un moment dans ma carrière n'est pas restée une vérité quelques mois plus tard ou un an plus tard. Il faut constamment se remettre en question. Il faut constamment évoluer puisque la compétition évolue aussi. Donc, il y a des moments où est-ce que je jouais très bien. J'avais l'impression que j'étais intouchable mentalement à ce niveau-là de la pression qui peut exister. Mais à d'autres moments où est-ce que j'ai été affecté beaucoup plus. Donc, j'essaie constamment de voir qu'est-ce qui marche sur le moment. Puis, une chose, si je pourrais dire, qui est très importante pour moi, c'est de rester connecté au jeu du tennis, vraiment de savoir, OK, qu'est-ce qui se passe, être vraiment comme en observation de ce qui se passe sur le terrain et pas non plus me concentrer sur tout ce qui se passe à l'extérieur ou les pensées négatives qui peuvent venir durant un match.
Tu as déjà été dans le top 10 mondial, 6e, là tu as glissé en 14e position. Est-ce que tu penses que éventuellement tu vas être capable de rattraper le peloton de tête là?
Oui, j'ai toutes les raisons de croire que je peux y arriver et même encore aller encore plus haut. J'ai toujours mis la barre très haute dans ma carrière. J'ai toujours eu de très grandes ambitions. Si après on tombe un peu en dessous, c'est pas très grave, mais il faut toujours mettre la barre très haute. Puis c'est ce que je fais chaque jour à l'entraînement, dans ma préparation, avec mon équipe également qui me supporte énormément dans tout ça, là, les entraîneurs tennis, physique, physio, agent. Donc tout le monde qui est impliqué essaie de pousser vers le haut. Donc, on a tous autour de moi la confiance que je vais retrouver la place où j'étais et encore mieux.
Justement, tu parles de ton équipe. Récemment, on avait en entrevue Sylvain Bruneau et il nous disait que souvent, un athlète, quand les choses vont moins bien, va apporter des changements dans son entourage. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages?
Non, pas du tout, puisque non, l'équipe fonctionne bien. On a eu un peu de malchance. On s'est adapté au niveau de ma préparation physique, au niveau de ma récupération aussi, au niveau de la prévention de blessures. Donc, l'équipe que j'ai, je l'ai depuis quelques années maintenant, puis je pense qu'on fait du bon travail. Moi, j'ai toujours confiance aux gens autour de moi. J'ai aussi, pour certaines défaites, j'ai ma part de responsabilité sur le terrain. Il y a des matchs que j'aurais pu gagner que j'étais en mesure de gagner, mais j'ai pas été capable. Donc, la faute, la responsabilité n'est pas sur les autres. À certains moments, elle est sur moi. Mais je pense que la grosse partie de l'année, ça a été vraiment la blessure qui m'a gêné puis a gêné tout le monde autour de moi pendant de longs mois.
Dernière question, j'aimerais t'entendre parler de Novak Djokovic. Il a gagné 3 majeurs cette année, revient aux États-Unis, gagne le US Open, il a 36 ans. Ça va s'arrêter où, Novak Djokovic?
Je sais pas, même lui, je sais pas, je pense. Comme il l'a dit en blague quelquefois, Ben, je sais pas, en fait, c'est une blague maintenant parce qu'il dit qu'il veut jouer jusqu'aux Olympiques de 2028. Je pense que oui, il est complètement obsédé par son sport, par l'idée d'être vraiment le meilleur de tous les temps, dans tous les domaines et dans tous les résultats. Donc, mais pour moi, c'est inspirant de voir ça. Quand j'ai vu le match, quand j'ai regardé les interviews, les images après, ça reste que c'est inspirant comme sportif. C'est inspirant de voir tout ce qu'il a réussi à accomplir. Puis quand on sait, moi qui joue au tennis, à quel point c'est difficile de gagner même un tournoi du majeur, de dire qu'il y en a maintenant 24, je pense que c'est ça. C'est un des plus grands sportifs pour moi de tous les temps, là, parmi la liste, si on veut, des 10 meilleurs sportifs de tous les temps.
Merci d'avoir été
avec
nous.
Merci beaucoup, Félix.
Merci.
Au revoir.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
On va faire le point sur la situation financière à la Société des alcools du Québec. Le président et chef de la direction est avec nous, Jacques Farcy. Monsieur Farcy, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Alors, disons que les revenus sont à la baisse. On n'a pas vu ça souvent à la Société des alcools. Comment vous l'expliquez? J'imagine que vous avez décortiqué ça. Qu'est-ce qui fait que ça baisse?
Alors, comme vous le disiez, en fait, c'est la première fois depuis 10 ans que sur le premier trimestre, on annonce un recul des ventes. Il est assez léger, un petit peu plus de 1% de recul des ventes, mais c'est quand même un recul. Et le résultat net est, lui, pour le coup, un petit peu plus en baisse. Donc, la baisse des ventes, en fait, au premier trimestre s'explique essentiellement par le fait que notre activité avec les distributeurs autorisés, pour lesquels la SAQ joue un rôle de grossiste, hein, on vend aux épiciers qui, eux, revendent dans leur magasin. Donc, dans ce rôle de grossiste, en fait, les épiciers nous ont un petit peu moins commandé sur le début de l'année que ce qu'on anticipait, et un peu moins que l'année dernière. Donc, ça, c'est le premier point pour les ventes. Le deuxième point pour le résultat net, c'est la conjonction à la fois de ces ventes qu'on n'a pas eues, mais c'est aussi le taux de change, en fait. Une grande partie des vins qu'on achète, on se couvre sur le taux de change entre le dollar canadien et l'euro. Et puis, pour ceux d'entre vous qui ont acheté des euros récemment, vous avez vu que le dollar canadien était un peu plus faible par rapport à l'euro. Et donc, comme on n'a pas repassé cette difficulté de couverture aux consommateurs, on l'a assumé, et donc c'est ce qui explique le résultat net un peu en baisse.
Est-ce que les gens ont baissé, d'après vous, leur consommation? S'ils achètent moins à l'épicerie, c'est parce qu'ils achètent un peu plus au restaurant, ils achètent un peu plus pour consommation à la maison?
Alors, pour les ventes en épicerie, nous, on n'a pas forcément accès aux données scanner sorties de caisse des épiciers, ça, c'est des données qui leur appartiennent. Nous, on le voit dans notre réseau de succursales, les ventes sont en très légère progression, mais on sent que c'est pas forcément les croissances auxquelles on était habitué dans les années passées. Donc je pense effectivement que le consommateur québécois a sans doute un petit peu ralenti sa consommation. On est nous attentifs, on continue à surveiller ce phénomène. S'il devait se prolonger, c'est quelque chose sur lequel on est attentif. Oui.
Bon, là vous avez comme un double chapeau à chaque fois. C'était vrai pour le cannabis, c'est vrai pour votre collègue à l'Auto-Québec. Là. Une entreprise qui voit une baisse de revenus va se comporter de façon un peu plus agressive. Vous n'êtes pas là ce matin pour nous faire la promotion du vin, de l'alcool et spiritueux, là.
Non, effectivement, le rôle de la SAQ, c'est de satisfaire les clients. Et pour satisfaire les clients, on peut compter sur des équipes qui sont très mobilisées, les équipes de la SAQ. On peut aussi compter sur quelque chose qui est important pour nous, qui s'appelle SAQ Inspire, qui permet de personnaliser l'expérience, de parler aux clients de ce qui l'intéresse. Mais notre mission, c'est de satisfaire les clients, c'est pas de les inciter à consommer beaucoup plus. L'alcool est un produit particulier, donc on se doit de respecter ce produit particulier. Donc effectivement, notre réaction à ce début d'année un petit peu plus difficile, c'est pas d'inciter tout le monde à acheter beaucoup plus de bouteilles, on n'est pas dans cette configuration-là.
Parlons-en du programme Inspire. Il y a beaucoup de gens qui ont des griefs. Je vous en donne deux. Il y a des analystes qui prétendent que c'est un programme récompense qui est pas très généreux, finalement, quand on établit des comparatifs avec d'autres.
Alors, vous m'offrez l'opportunité de repréciser ce qu'est SAQ Inspire. Certains parlaient d'un programme de loyauté comparable à d'autres programmes de loyauté. Bon, vous le comprendrez, à la SAQ, on n'a pas un problème de loyauté particulièrement.
On n'a pas le choix d'aller chez vous.
Et on est effectivement le détaillant au Québec. Donc, le programme Inspire, c'est pas un programme de loyauté, c'est un programme de reconnaissance. SAQ Inspire, ça me permet, si les clients le souhaitent, parce qu'évidemment c'est volontaire, ça me permet de mieux comprendre ce que chacun des clients souhaite acheter. Et le mandat de la SAQ, c'est de servir tous les Québécois. Et dans notre industrie, tous les Québécois, ça peut être des gens qui sont, je dirais, des vrais collectionneurs et des gens qui ont une passion incroyable pour notre industrie et l'histoire des produits qu'on peut vendre, jusqu'à l'autre extrémité, quelqu'un qui peut juste acheter une bouteille à Noël quand il a de la visite. Et nous, à la SAQ, on n'est pas à se dire, il y en a un qui est plus important que l'autre, on doit servir ces clients-là.
Non, mais vous offrez des points quand même.
Alors bien sûr, les points, c'est la manière, je dirais, d'inciter le client à présenter sa carte. Et c'est la manière qu'on soit capable de comprendre ce que le client souhaite, qu'est-ce qui l'intéresse, et de ce fait-là, de lui donner de la communication sur les produits qui l'intéressent.
OK. Si je traduis vos propos, je vais dire, finalement, vous me donnez peu de points pour avoir des informations sur mon profil de consommateur.
Alors, peu de points, on a communiqué l'année dernière, je crois que c'est de 29 $ en moyenne sur une année pour un client, enfin l'équivalent des points transformés en dollars de remise. Donc bon, c'est une générosité qui existe. Est-ce qu'elle est extrême? Non, évidemment. Est-ce qu'elle est négligeable? Non plus. Je crois que 29 $, tout le monde a envie de les prendre. Et je le rappelle, c'est une moyenne. Certains clients en profitent beaucoup plus que d'autres.
Oui. L'autre question, il y a des gens qui me rapportent, par exemple, qui se font voler leur carte à Inspire. Mm-hmm. Quand je fais la transaction en succursale, est-ce qu'on me demande une pièce d'identité ou si on passe la carte et ça vient de...
Alors, en fait, quand vous achetez, vous avez juste à présenter votre carte. Quand vous transformez les points, donc quand vous voulez utiliser la générosité de la carte, là, on vous demande effectivement une pièce d'identité pour vérifier que le nom de la pièce d'identité correspond bien avec le nom du titulaire du compte, de manière à limiter les cas de fraude. On a quand même quelques cas de fraude, ça arrive dans tous les commerces de détail. Et dans ces cas-là, on s'assure de répondre à la demande des clients.
Est-ce que ça veut dire que vous remettez les points qui ont été fraudés?
Ben, ça veut dire qu'on s'assure de vérifier que c'est bien un cas frauduleux et que c'est pas une malversation. Et dans les cas d'exception, effectivement, ça nous arrive de corriger le solde de points et de redonner au client le solde qu'il avait si c'est pas lui qui est fautif, évidemment.
OK. Il y a eu des enjeux de gestion de stock, par exemple. Mm-hmm. Beaucoup d'importateurs disaient, ben, mes caisses sont coincées au port, sont coincées à l'entrepôt de la mm-hmm. société et tout ça. Est-ce que maintenant c'est corrigé? Est-ce que on a retrouvé un certain rythme d'approvisionnement?
Alors, je pense que vous parlez de l'importation privée?
Entre autres, oui.
Oui, oui. Alors, donc pour rappeler pour les auditeurs, l'importation privée, ce sont des vins qui sont importés par la SAQ, puisque la SAQ importe tous les vins au Québec. Mais la partie commerciale est faite par des agents de représentation. Et donc nous, on a une partie de notre entrepôt qui est réservée en termes de stockage. Et évidemment, on souhaite que les stocks rentrent et sortent avec une forme de régularité. On a constaté jusqu'au mois de juin de l'année dernière que c'était plus difficile, on avait plus de stocks que de ventes. Donc on a demandé aux agents d'importation privée, on a modifié nos politiques pour les inciter à ce qu'ils vendent ce qu'ils avaient déjà en stock ici plutôt que de recommander des produits. Et puis tout le monde a répondu présent, donc le niveau de stock a baissé et donc on a des délais qui sont devenus presque raisonnables, presque correspondants à nos historiques. On a en tête que d'ici fin septembre, début octobre, on sera revenu à une forme de normalité sur la capacité à faire la rotation des stocks sur les importations.
Quelle note vous donnez à votre service en ligne?
Alors, le service en ligne SAQ.com, c'est pas à moi de l'évaluer parce que, évidemment, je vais trouver qu'il est très très bon, mais quand on regarde ce que les clients disent, peut-être vous vous en souvenez, l'indice WOW de l'expérience client nous plaçait deuxième sur le podium des détaillants en ligne, donc c'est une étude indépendante. On est très satisfait d'être si bien placé. Maintenant, on sait que sur les ventes en ligne, il y a toujours énormément de choses à faire. Les attentes continuent de progresser. Donc, on a encore du plein pain sur la planche, peut-être pour arriver un jour sur la première place du podium.
Mais parce que, je vous donne quelques exemples, beaucoup de vins sont disponibles dans la succursale, oui. Mais pas en ligne. Oui. Et puis, il y a bien des consommateurs qui se disent, mais pourquoi c'est si compliqué que ça d'avoir une offre un peu plus large, un éventail plus intéressant?
Alors, effectivement, on a toujours des cas de figure où on retrouve la bouteille toujours au mauvais endroit, dans la mauvaise succursale quand on veut l'acheter. Pour répondre à ça...
Disponible à Gatineau seulement.
Bah oui, ou à Sept-Îles, ou à Montréal pour des gens qui sont en région et qui veulent venir l'acheter dans leur succursale de région. En fait, pour remédier à ça, on a décidé de mettre de l'avant un système qui fait que tous les nouveaux arrivages, donc tous les produits de spécialité, passent d'abord sur SAQ.com. Donc, j'invite tous les Québécois à être attentifs à leur infolettre et aux communications, parce que tous les produits spécialités, ils peuvent mettre la main dessus en priorité sur SAQ.com. SAQ.com livre partout au Québec, à la fois en succursale pour une livraison gratuite au-delà de 75 $, ou sinon à la maison. Et donc ça permet en fait à tous les Québécois partout au Québec de mettre la main sur les produits de spécialité à leur lancement. Une fois que le lancement est passé, effectivement, on répartit les stocks dans les succursales. Et c'est là où, si un client veut acheter des bouteilles, parfois la bouteille n'est pas exactement dans sa succursale la plus proche.
Est-ce que c'est vrai qu'à la SAQ, il y a une liste de clients privilégiés, ce qui signifie des gens qui achètent gros et qui ont accès à des vins qui sont, disons, réservés pour eux?
Alors, on a ce qu'on appelle des clients grands connaisseurs. Je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Dans l'industrie, dans notre industrie, il y a une liste d'attentes très large, un éventail d'attentes très large. Donc, on a ce qu'on appelle des clients grands connaisseurs. Donc, c'est pas des clients qui sont privilégiés, mais c'est des clients qui souhaitent avoir accès ou avoir des traitements particuliers parce que...
Et le critère, c'est... Combien ils dépensent?
Le critère, c'est la dépense et l'intérêt dans nos produits, évidemment. Et je crois que c'est très bien que la SAQ soit bien mobilisée pour servir ces clients-là. La plupart du temps, ces clients-là, ils sont présents un peu partout sur la planète. Ils sont québécois, mais ils ont des activités un peu partout. Donc, ils pourraient décider de dépenser ailleurs qu'au Québec. Et je crois que c'est très bien que nous, la SAQ, on prenne notre juste part et on soit actif avec ces clients-là pour répondre à leurs besoins, pour qu'ils dépensent au Québec plutôt que de dépenser dans d'autres provinces ou à l'étranger.
Ma question, je la reformule. Est-ce que ce sont toujours les mêmes qui ont accès aux bouteilles les plus recherchées?
En fait, on a un système de loterie qui permet pour les produits d'exception, qui est très ouvert, qui est communiqué sur SAQ.com à chaque fois qu'il y a des loteries. Donc ces loteries-là, elles sont accessibles à tout le monde. Évidemment, c'est un système de loterie, donc il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, mais par définition, une loterie tire au sort. Donc là, c'est le sort qui fait son travail. Donc c'est pas réservé à certains clients. Ce qui est réservé à certains clients, c'est la capacité de leur donner accès. Parfois, ils veulent des verticales, ils veulent avoir certains crus particuliers pour compléter leur cave. Donc, c'est sur ces domaines-là qu'on travaille spécifiquement pour eux, parce que c'est leur intérêt.
Comment se prépare la négociation avec les employés?
Écoutez, les choses vont bon train. On a eu...
La convention est terminée depuis le mois de mars.
Depuis le mois de mars, on est présent à la table avec notre partenaire à la table qui représente les employés de nos succursales. Donc, on a déjà eu, je crois, une quarantaine de discussions productives. Évidemment, les discussions à la table restent à la table. Et on a décidé conjointement les deux parties de faire appel à un conciliateur. On a eu, je crois, une ou deux premières réunions avec le conciliateur début septembre. Et donc, les choses suivent leur cours et je souhaite, j'espère qu'on en arrivera à une entente.
Monsieur Farcy, merci d'être venu ce matin.
Merci beaucoup.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.